même date au soir. Oui, mon ami, c'est tout semblable aux femmes d'Alger de Delacroix. C'est aussi charmant. Ce n'est pas plus beau. Dans la nature, la vie est plus multiple, le détail plus imprévu, les nuances sont infinies. Il y a le bruit, les odeurs, le silence, la succession du geste et la durée. Dans le tableau, le caractère est définitif, le moment déterminé, le choix parfait, la scène fixée pour toujours et absolue. C'est la formule des choses, ce qui doit être vu plutôt que ce qui est, la vraisemblance du vrai plutôt que le vrai. Il n'y a guère que je sache d'autre réel en fait d'art que cette vérité d'élection. Il serait inutile d'être un excellent esprit et un grand peintre si l'on ne mettait dans son œuvre quelque chose que la réalité n'a pas. C'est donc quoi, l'homme est plus intelligent que le soleil, et j'en remercie Dieu. À midi précis, je frappai à la porte d'Aoua. J'entendis à l'intérieur plusieurs voix qui crièrent à la fois « Minou, qui est là ?» Et au-dessus de ma tête, dans une chambre formant étage, une autre voix, facile à reconnaître, qui répétait « Achekoulé, qui est-ce ?» Puis un volet fermé fit du bruit, et la même voix dit aussitôt « Yasra, Elbab !» Asra ouvre la porte. La négresse vint ouvrir. Je traversai la cour, où j'aperçus dans quatre chambres quatre ménages juifs, des femmes qui savonnaient des langes, beaucoup d'enfants jouant fraternellement au seuil des portes, et des nouveau-nés que leur mère balançait dans des berceaux mobiles en forme de hamac. L'étage était en galerie. J'en fis le tour avec Asra, qui me précédait, traînant ses talons nus sur les carreaux de faïence, les reins pris comme par un sarrau dans son étroite foulade d'étoffe orange et bleue. Arrivé devant la chambre de sa maîtresse, la noire servante tourna la tête à demi de mon côté et fit exactement le geste que tu peux voir dans le tableau de Delacroix pour écarter le rideau de mousseline à fleurs. Je vis, en entrant, Aoua qui m'attendait, couché de côté sur un long divan bas et large, au milieu d'une quantité de petits coussins dont l'arrangement prouvait qu'elle avait dormi. « Bonjour, me dit-elle, asseyez-vous. » Je m'assis non pas à côté d'elle, mais à ses pieds, et pas trop près, de manière à la bien voir. Un narguilé brûlait au milieu de la chambre. Elle ne tenait l'extrémité entre ses doigts, chargée de bagues, et regardait voler la fumée qui s'échappait en filet tremblant par l'orifice du bouquin d'ambre. Le long tuyau annelé de brun et d'or s'engoulait autour de sa jambe fine, nerveuse, jaune comme du vieux ivoire, et semblait la presser d'un nœud vivant comme le serpent de Cléopâtre. Elle était pâle, immobile, à demi souriante, et la vie dont était animé ce corps tranquille soulevait paisiblement son étroit corsage. Rien ne manquait à sa toilette pour la rendre aussi accomplie que possible. Elle avait pris des soins exquis pour se parer, se parfumer et se peindre. Coiffée de foulards noirs et bleus, et peut-être un peu moins déshabillée que ne l'est une femme mauresque dans son intérieur, elle portait un corset de drap bleu richement doré sur un cafetan bleu sans manches et, contre l'usage du pays, une sorte de ceinturon d'or à fermoir massif retenait autour de sa taille un peu grêle un foutard très ample de couleur écarlate. Son costume, ainsi composé de trois couleurs, mais où le rouge ardent écrasait tout, exagérait encore, par ce contact extrêmement vif, la pâleur morne de sa peau. Elle avait les yeux bordés d'antimoine, les mains enluminées de henné, les pieds aussi, et ses talons rougis par la teinture ressemblaient à deux oranges. « Comment t'appelles-tu » demandai-je. « Welchesmek » Elle aspira une dernière bouffée de tombac et par un joli geste me tendit le bouquin du narguilé dont le souffle tuyau s'est resté enroulé sur sa jambe. « Wenchil-t-il fit ?» dit-elle en s'approchant tout près de mes lèvres. « Qu'est-ce que cela te fait ?»« Ben pour savoir si ton nom est aussi doux que ta voix. » Et comme je la regardais sans rien ajouter, elle répondit aussitôt « Je m'appelle Haoua. »« Tu es la bien nommée ?» lui dis-je en répétant ce mot aérien, tout composé de voyelles et qui se prononce d'une seule haleine, exactement comme on respire, car ton nom veut dire l'air respirable et l'amitié. Fait-il chaud ? Reprit-elle entre deux silences. Très chaud, et il est bien fou celui qui cherche auprès du feu un abri contre le soleil. Il y eut une nouvelle pause après ce nouveau madrigal qui l'a fait sourire. Considère, mon ami, qu'excepté les mots de « Monsieur, bonjour, au revoir, asseyez-vous », Aoua ne connaît pas quatre syllabes de pur français, et que j'en suis réduit à parler arabe, ne voulant pas employer le sabir, affreux dialecte indigne de cette voix unique, craignant avant tout de la rendre ridicule et volontiers me résiliant à l'être. L'entretien d'alors fut si simple que j'aurais de la peine à te le rapporter. Je renouvelai le tombac du narguilé, je fis des cigarettes qu'elle fuma, à cela nous servit le café, je parcourus la chambre et l'examinai, j'allais de la porte au volet fermé donnant sur la rue, j'admirai ses étagères et de ses étagères je revenais à elle. Elle avait au cou, entortillé trois ou quatre fois comme un immense collier, un de ces longs chapelets de fleurs d'oranger que fabriquent les Juifs. Il était tout frais cueilli du matin, et l'odeur en était telle que pour la supporter sans ivresse, faut être femme et femme arabe. « Prends-le, » me dit Haoua en détachant lentement cette longue guirlande embaumée et me la jetant comme elle aurait fait d'une chaîne. Le temps se passa de la sorte, je veux dire une heure ou deux. À ce moment, je crus qu'elle avait envie de dormir. « Non pas, » dit-elle. Et cependant, elle se pencha en arrière, la tête à demi renversée sur les coussins. Le silence était profond, l'air alourdi de fumées odorantes et accablant. On n'entendait plus que le murmure assoupissant d'une argulée qui s'épuisait. Ses yeux se fermèrent. Je vis une ombre légère descendre alors sur ses joues dont la peau frémit. C'était l'ombre nocturne de ses longs cils qui se posaient sur elle comme deux papillons noirs. Aoua ne bougea plus. Et moins d'une minute après qu'elle avait dit « non », ce paisible esprit appartenait déjà au sommeil. Comme je traversais la cour pour quitter la maison, un des enfants juifs, le plus petit, cracha de côté en détournant la tête, ce qui, tu le sauras, est un signe de souverain mépris. Blida, 28 février. Oh, j'ai assisté aujourd'hui à une scène affreuse. C'était, m'a-t-on dit, quatre scélérats et je n'ai pas eu de peine à le croire en les voyant. Ils marchaient deux par deux, dans une boue épaisse et sous une pluie battante, les mains liées derrière le dos, en burnous et pieds nus, flanqués du peloton de tirailleurs qui devaient les fusiller. Il y avait en outre, pour protéger la loi, deux bataillons de ligne et de la cavalerie. La foule précédait, entourait, suivait l'enterrement. Le cortège allait au plus petit pas. Des fanfares sonnaient une marche funèbre. On les menait à l'extrémité du bois des Oliviers, à gauche, sur un tertre élevé de quelques mètres au-dessus d'une tranchée naturelle. J'eus la triste curiosité de suivre la foule et d'accompagner jusqu'au bout de leur vie ces quatre misérables. Le temps était glacial et très sombre, quoiqu'il fût midi. D'abord, on leur délia les mains. Chacun d'eux, sur un ordre reçu, ôta son burnous et en fit un paquet qu'il déposa par terre à ses pieds. Puis ils furent placés debout au bord de la tranchée à 6 pas d'intervalle, en faisant face à la montagne. Le peloton se rangea à 10 pas derrière eux. Il était de 48 hommes, 12 pour chacun des condamnés. L'infanterie formait un étroit demi-cercle autour du lieu d'exécution, et pour prévenir toute évasion, 2 pelotons de cavalerie, le sabre au poing, stationnaient à droite et à gauche au bord de la rivière. Au-delà de l'Oued, gonflé par la fonte des neiges et qui leur barrait le passage, s'élevait la montagne, presque à pic en cet endroit-là. Un rideau de pluie attristait encore cette sombre perspective, fermée à tout espoir de délivrance. Ces dispositions prises, et rapidement, un officier lut le jugement, d'abord en français, puis en arabe. J'apercevais ces terribles papiers, je pouvais en compter les feuillets et en mesurer la longueur. L'œil sur ma montre, calculant ce qui restait à lire, j'évaluais les minutes de grâce. Ils étaient debout, calmes, plantés sur leurs jambes avec un aplomb qui ne fléchissait pas, imperturbables devant la mort prochaine, la main gauche pendante, la droite élevée à la hauteur du front, et l'index dirigé vers le ciel. C'est dans cette tenue mystérieuse qu'un arabe qui subit sa destinée attend avec tranquillité son dernier moment. « Savez-vous à quoi ils pensent ?» me dit Vandel. « Ils se disent que ce qui est écrit, et que si leur mort n'est pas décidée là-haut, malgré tout cet appareil effrayant, malgré ces 48 carabines rayées qui vont tirer sur eux comme dans une cible, ils vivront. » Quand la lecture fut achevée, il y eut quelques secondes de silence. Je sentis que tout était fini. Un des condamnés essaya de tourner la tête, où il n'en eut pas le temps. Involontairement, je fermais les yeux, mais involontairement aussi, l'explosion me les fit ouvrir, et je vis les 4 hommes bondir sur eux-mêmes comme des clowns qui font un saut de carpe et disparaître dans la tranchée. Puis j'entendis 4 coups de grâce, et les clairons sonnèrent aussitôt le départ. Un piquet de quelques soldats fut seulement mis en faction près des cadavres, qui devaient rester exposés là jusqu'au soir, pour être livrés alors à leur famille, si quelqu'un les réclamait. Tout le jour, la pluie tomba sur eux. Vers le soir, le temps s'étant éclairci, je pus sortir de nouveau pour aller voir ce qu'ils devenaient. Il y avait là plusieurs Arabes avec des chevaux et des bêtes de somme. Quand on jugea que le soleil se couchait, les sentinelles s'éloignèrent. Alors, sans cri, sans pleurs, comme s'il se fût agi d'un ballot, chacun des cadavres fut hissé, puis couché en travers d'un mulet, puis ficelé de manière à garder son équilibre. Et aussitôt, la cavalcade prit le pas et s'éloigna du côté de la Chiffa. Les corps, étendus à plat, dépassaient de toute la longueur de la poitrine et des jambes le bas très étroit qui leur servait de civière. Ils étaient horriblement roidis par ce séjour de 6 heures au froid et suivaient, sans fléchir, le pas balancé des animaux. À les voir à distance et vaguement dessinés sur le ciel où le jour s'éteignait, on eût dit que les mulets portaient des planches. Blida, mars. Le printemps s'établit. Nous voici dans la maison variable, avec un soleil très chaud, les jours splendides, et de temps en temps de fortes pluies qui sont amenées par les orages et jamais ne durent plus de quelques heures. Le vent ne se fixe nulle part, il hésite entre son point d'hiver et celui d'été et fait à tout moment le tour du compas. Le thermomètre se maintient au tempéré, entre un minimum assez rare de 15 à 18 degrés et un maximum de 24 à 25 degrés. Les neiges commencent à fondre, l'Oued coule à plein bord. Les petits ruisseaux qui l'alimentent ont grossi et les jardins sont de plus en plus égayés par le mouvement joyeux des eaux courantes. Il n'y a presque plus d'eau dans la plaine, où le lac lui-même est à peu près rentré dans son lit. Il apparaît à gauche du Mazafran, derrière les Hadjouds, étendu au pied du tombeau de la chrétienne, sur une ligne mince ayant la forme et l'éclat vibrant d'une longue épée. Quelquefois, après une semaine de chaleur continue, le ciel se couvre de vapeurs et l'atmosphère, surtout au-dessus de la ville, en est alors si chargée et devient si basse que la montagne disparaît, cachée bizarrement jusqu'à moitié comme par un rideau de théâtre. Bien qu'elle nous touche, nous n'en distinguons plus que la base et le fond des ravins boisés, rendus d'un bleu sombre par une ombre impénétrable. Si le vent reste mou, si le brouillard, au lieu de se fondre en rosée, remonte jusqu'à la région ordinaire des nuages, on est à peu près certain d'entendre vers le soir un ou deux coups de tonnerre éclater dans la montagne et de voir la pluie tomber. Elle continue jusqu'au matin. Vers 4 heures, nous apercevons des étoiles. Tout se dissipe avec la nuit, comme si, chassés eux-mêmes par les approches du jour, les nuages s'évanouissaient pêle-mêle avec les ténèbres. Le soleil paraît dans un ciel où ne reste pas le plus petit trouble. Les horizons sont nets, vifs et fermes. Nous pourrions compter les cèdres plantés à 3000 pieds au-dessus de nos têtes sur les derniers pitons des Beni Salah. Le plus ordinairement, les soirées sont magnifiques. Je les passe au bois des oliviers. En ce moment de l'année, 12 mars, le soleil se couche un peu après 6 heures et directement au pied de la plaine entre le promontoire avancé de la Moussaïa et le pays montueux des Beni Menasser, sur des collines qui ont l'air d'une mer agitée. On le voit suspendu comme un globe au-dessus de cette haute barrière violette ou faisant rayonner, quand il y a des nuages, un vaste triangle enflammé. À mesure qu'il descend, l'orbe grandit. On peut cependant un instant le considérer sans fatigue, car il n'envoie plus ni chaleur ni rayon. Et il plonge enfin parmi les collines et disparaît, tout rouge et comme déchiré par les aspérités de l'horizon. Aussitôt commence un crépuscule ardent de quelques minutes. L'humidité précède la nuit et moins d'un quart d'heure après le départ du soleil, toute la campagne est inondée de rosée. Je ne vais guère au bois des oliviers que pour assister à ce spectacle, un des plus beaux de la journée. Autrefois, c'était un lieu que nous aimions pour toutes sortes de raisons, dont beaucoup au moins n'existent plus. Peut-être était-il plus attrayant. Peut-être étions-nous plus jeunes. Nous y vivions à l'ombre, adossés contre le tronc des arbres, étendus sur de courts gazons et causant de souvenirs classiques, en regardant tomber autour de nous les petites olives sauvages que le vent du printemps secouait des branches. Nous pouvions encore, à ce moment-là, rêver à quelque chose de grave et de grand, à l'ombre de ces beaux arbres chargés d'années, et devant ce petit marabout à coupole basse, assez semblable à un autel. Je me souviens, que nous y avons lu Édipe à Colonne pendant une après-midi qui rappelait la Grèce. Étranger, te voici dans le séjour le plus délicieux de l'Attique, à Colonne, riche en coursiers. Là fleurit chaque jour, sous la rosée céleste, le narcisse au calice gracieux, antique couronne des grandes déesses. Sur cette terre croît un arbre que ne possède ni l'Asie ni la grande île dorienne de Pélops, arbre qui ne fut pas planté par une main mortelle, qui vient sans culture et devant lequel reculent leurs ennemis. Nulle part il ne pousse plus vigoureux que dans cette contrée. C'est l'olivier au pâle feuillage. Et des hommes vêtus de blanc, avec un air sérieux, passaient au loin parmi les arbres. La ville dont on apercevait les tours blanches était séparée de nous par des haies épineuses de nopal et d'aloès. Des cavaliers, dompteurs de coursiers, cheminaient sur une étroite chaussée entre la montagne et nous, à demi nus, sans selle, et maniant de petits chevaux à mâchoires nerveuses, à courtes oreilles, à qui nous trouvions des airs thessaliens. Aujourd'hui, le bois sacré de Blida n'est plus reconnaissable. Tout y dépérit. Les oliviers au pâle feuillage se découronnent. Il n'est plus possible de trouver de l'ombre à leurs pieds, tant est rare et misérable la maigre verdure qui tremble au bout de leurs immenses rameaux. Les lances ennemies n'ont pas reculé devant eux, et ni Jupiter, protecteur des oliviers sacrés, ni Minerve aux yeux bleus, n'empêcheront qu'ils ne soient extirpés du sol par une main étrangère. Le marché arabe ne se tient plus ici depuis longtemps, quoiqu'il n'y ait pas dans Blida de place plus pittoresque pour un marché. Tu y verrais maintenant des baraques, presque constamment des bivouacs militaires et des tranchées faites pour amener les eaux. Secours tardif qui ne ressuscitera pas le bois expirant. Seul le marabout subsiste, toujours éclairé à l'intérieur d'une quantité de bougies roses et de petites lampes, toujours exhalant comme une chapelle une chaude et mystérieuse odeur de cire qui se consumait d'encens. Il durera autant que la superstition, c'est-à-dire très probablement plus que les oliviers. Ah, une agréable douleur, nouvelle que je ne t'ai pas dite. Les cigognes sont arrivées. J'ai vu l'autre jour leur premier courrier. C'était le matin de très bonne heure, beaucoup de gens dormaient encore dans Blida. Ils venaient du sud, portés par une légère brise, s'appuyant sans presque les bouvoir sur ses grandes ailes à l'extrémité noire, le corps suspendu entre elles comme entre deux bannières. Une troupe de pigeons ramillés, de corneilles et de petits milans lui faisait un joyeux cortège et saluait sa bienvenue par des battements d'ailes et par des cris. Des aigles volaient à distance, les yeux tournés vers le soleil levant. Je vis la cigogne, suivie de son escorte, descendre de la montagne et se diriger vers Bab el-Set. Il y avait là des Arabes qui sans doute avaient voyagé la nuit, car ils étaient couchés pêle-mêle avec des dromadaires fatigués, toutes les charges réunies au centre du bivouac, et les animaux n'ayant plus que leurs bas. Quand l'oiseau sacré passa sur leur tête, un des Arabes qui le vit étendit le bras et dit en se levant tout droit « Chauffe el Benadj, regarde, voici la cigogne !» Ils l'aperçurent tout aussitôt et comme un voyageur qui revient, ils la regardèrent en se répétant de l'un à l'autre « Choufiouchi, l'as-tu vu ?» Longtemps, l'oiseau parut hésiter, tantôt rasant les murs, tantôt s'élevant à de grandes hauteurs, les pieds allongés, tournant lentement la tête vers tous les horizons du pays retrouvé. Un moment, il eut l'air de vouloir prendre terre, mais le vent qui l'avait amené rebroussa ses ailes et l'emporta du côté du lac. Les cigognes émigrent à l'automne pour ne revenir qu'au printemps. Elles se montrent rarement dans la plaine et n'habitent jamais Alger. À Médéa, au contraire, et dans toutes les villes de la montagne, elles se réunissent en grand nombre. Constantine en est peuplée. Je connais peu de maisons dans cette ville, la plus africaine et la moins orientale de toutes les villes algériennes. Je connais peu de toitures un peu hautes qui ne supportent un nid. Chaque mosquée a le sien, quand elle n'en a pas plusieurs. C'est une faveur pour une maison d'être choisie par les cigognes. Comme les hirondelles, elles portent bonheur à leurs hôtes. Il y a toute une fable qui les consacre et les protège. Ce sont des tolbas chargés en oiseaux pour avoir mangé un jour de jeûne. Elles reprennent tous les ans leur forme humaine dans un pays inconnu et très éloigné, et quand, appuyées sur une patte, le cou renversé dans les épaules et la tête élevée vers le ciel, elles font avec un claquement de leur bec le bruit singulier de « koum, koum, koum ». C'est qu'alors l'âme des tolbas, toujours vivante en elles, se met en prière. Jadis, c'était Antigone, fille de Laomédon et sœur de Priam, que Junon changeait en cigogne pour la punir de l'orgueil que lui causait sa beauté. Tous les peuples ont eu le génie des métamorphoses, et chacun y a mis sa propre histoire. La Grèce artiste devait être punie dans sa vanité de femme. L'arabe dévot et gourmand devait l'être pour un péché commis en carême. Blida, mars. Aujourd'hui, nous avons fait une course au fond du ravin de Loued el-Kébir. Loued el-Kébir, malgré son nom de grande, est une toute petite rivière. En France, on dirait un ruisseau, dont les pluies d'hiver et la fonte des neiges font tout à coup un torrent. Réduite à ses propres ressources, elle n'est plus rien. Elle prend naissance au fond d'un ravin étroit, peu profond, et comme toutes les rivières montagneuses à leur origine, on la surprend d'abord dans un riant berceau à fond de roche, tapissé de feuillages, de roseaux et de lauriers roses. Elle y naît dans la fraîcheur de l'ombre, dans la retraite et dans le silence, comme les idées dans le paisible esprit d'un solitaire. Il y a quelques années encore, les Blidiens ne sortaient pas sans avoir un fusil chargé sur l'épaule et croyaient prudent d'être en nombre et tous armés pour accomplir cette petite promenade à 2 kilomètres au plus de leur ville. Aujourd'hui, bien entendu, chacun va seul aux sources de l'Oued en fumant son cigare avec autant de sécurité qu'au jardin public du tapis vert et beaucoup plus agréablement. On a bâti, jusqu'à l'entrée de la Borge, des moulins et les rudiments d'usines. Je n'y regarde jamais de très près, je crois cependant que ce sont des briqueteries. Un peu plus loin, des travaux de barrage ont été faits pour régulariser le cours du ruisseau. Ce n'est donc que quelques 100 mètres au-delà que la promenade commence à devenir intéressante. La route s'engage alors dans le ravin, entre des pentes fort pittoresques, parmi des rochers tombés de la montagne et roulés par la rivière au moment des grandes eaux. L'Oued coule à côté du sentier, tantôt sur un lit de sable et de gravier ressemblant à de l'ardoise en poudre, tantôt à travers de larges blocs que le courant contourne en courbe uniquement un peu quand il n'a pas la force de les arracher de son lit. La montagne est rocheuse, escarpée et fréquemment creusée par de profonds éboulements. On y voit peu d'arbres, excepté de loin en loin quelques vieux oliviers plantés presque horizontalement dans les talus qui restent attachés par les racines dont le branchage échevelé pend sur le chemin. Un peu plus loin, la gorge s'élargit et se découpe en ravins latéraux. La végétation s'épaissit et chaque écartement de la montagne forme alors un entonnoir baigné par le fond et encombré de hauts feuillages. On approche ainsi du cimetière. Il est tel que tu l'as vu. tout entouré de barrières rustiques composées d'arbres morts et de halliers, et protégé par une ceinture impénétrable de lentisques, de myrtes et de lianes. Au fond, une sorte de bocage ombreux, de grands oliviers très verts, des caroubiers plus sombres encore, d'immenses frênes et des peupliers tremblent au tronc blanchâtre, ayant à peu près la taille et le port des platanes. Au centre de cet enclos solitaire, très recueilli, très abrité, où le soleil ne pénètre que pendant le milieu du jour, un terrain plein d'herbes et couvert de tombeaux. Trois ou quatre seulement forment de petits monuments semblables à des marabouts de 4 ou 5 pieds de haut, avec un couronnement dentelé et la couba conique. Telle est la sépulture ordinaire des personnages religieux ou célèbres à quelques titres. Une vieille femme gardait le cimetière, accroupie sur le revers d'une tombe, la tête inclinée sur ses genoux. Elle avait un sarrau rayé de bleu, de jaune vif et de rouge éclatant, mal attaché sur ses épaules. Les bras et les pieds nus, la tête entourée d'un fichu noir, et le visage à moitié caché par des cheveux tout grisonnants, elle tenait à la main, comme un emblème de toutes les fragilités humaines, une longue et mince baguette en roseau. « Salut sur toi, Homer !» lui dit Vandel. « Que ta journée soit bonne !»«
Qu'y a-t-il ? Et que viens-tu faire ?»
demanda la vieille avec un peu d'alarme, en nous voyant tout à coup dans l'enceinte réservée. Nous répondîmes « Rien que le bien !» et nous nous assîmes sur une des barrières. Une bougie rose brûlait dans le creux d'un arbre renversé vers le milieu du cimetière. La face des quatre marabouts qui regardent le levant était inondée de cire fondue, et dans une sorte de niche creusée dans la paroi du plus orné et du plus ancien des quatre, brûlait une autre mèche odorante dont on voyait seulement la fumée. Savez-vous ce que c'était que ces gens-là ? Demandai-je à Vandel, vous qui savez tout. Oh, des hommes, me répondit Vandel un peu sentencieusement. Si vous y teniez, je vous dirais leur nom et leur légende plutôt que leur histoire, mais à quoi bon ? Ils ont fait leur temps. Ils habitaient un pays qui n'est pas le vôtre et parlaient une langue que vous entendez à peine. S'ils ont fait du bien ou du mal, cela ne nous regarde pas. Nous n'avons même pas le droit d'allumer une bougie rose en leur honneur. Au moment où nous repassions la barrière, un arabe qui venait d'entrer dans l'enceinte alla dévotement baiser la tombe du saint et se mit à genoux dans l'herbe pour faire sa troisième prière, car il était 1 heure après-midi. À quelques pas en arrière du cimetière se cache un village, ancien séjour de l'aristocratie de Blida. Incendié et pillé en 1836, pillé encore en 1840, aujourd'hui il est réduit à une quinzaine de masures, dont une seule couverte en tuiles reste en pisé avec la toisure en creusot. Des chiens en gardaient l'entrée et nous aboyaient aux jambes. Des enfants criaient comme si se fût agi d'un nouveau siège. Nous continuâmes notre promenade en parlant très philosophiquement de la mort. « Ne l'y crois pas, me disait mon compagnon. C'est un passage sombre que chacun de nous rencontre à un moment donné dans sa vie. Beaucoup de gens s'en alarment, ceux à qui l'obscurité fait peur, comme aux enfants. Bon, quant à moi, les 3 ou 4 fois qu'il m'est arrivé de m'en trouver tout près, j'ai vu de l'autre côté une petite lumière, je ne sais trop laquelle, mais évidente, et qui m'a tout à fait tranquillisé. Avril. J'ai revu Aoua souvent depuis 3 semaines, et décidément, nous voilà bons amis. Le début présageait au reste que nous n'aurions pas grand-peine à le devenir. Vandel, qui s'accommode à peu près de tout ce que je lui propose, m'accompagne ordinairement dans mes visites. Nous allumons en son honneur le narguilé. C'est là son droit d'interprète, et comme le narguilé a trois branches et que chacun de nous peut ainsi disposer d'un tuyau, souvent alors notre conversation consiste à faire à tour de rôle murmurer dans le vase en cristal l'eau parfumée de rose où se rafraîchit la fumée. Nous passons ainsi des après-midi chaudes ou des soirées intelligemment couchés sur les coussins. J'ai toute liberté de fouiller dans les meubles d'Aoua, j'en profite. J'entr'ouvre ces grands coffres couleur de cinabre, à serrure de cuir, et j'en tire tantôt sa garde-robe et tantôt ses bijoux. C'est un vestiaire arabe des plus riches et des plus variés. Veste d'été, veste d'hiver, petits gilets tout chargés d'orfèvrerie, avec d'énormes boutons d'or ou d'argent, cafetan de drap ou de soie, pantalon de négligé, de tenue moyenne ou d'apparat, depuis la simple cotonnade ou la mousseline des Indes, jusqu'au lourd brocart chamarré de soie et d'or, plus un assortiment de foutas pour entourer la taille, de guimpes légères pour accompagner le turban, de mouchoirs de tête et de ceinture, tout cela bizarrement appelé de noms inutiles à dire, et bariolés de couleurs les plus tranchantes. Les bijoux sont réunis à part, empaquetés dans un foulard. Ce sont des anneaux de jambes, des bracelets, des gourmettes en sultanin, des miroirs de mains à manches écaillées de nacre. Les pantoufles y sont aussi comme représentant de vrais bijoux, par le luxe et pour la valeur. Mais tu as donc hérité d'un sultan, dit Jahoua, le jour où je découvris ce riche mobilier et cette fortune de femme élégante. Mais c'est pas un sultan qui m'a donné cela, c'est mon mari. Lequel, interrompit Vandel, sans se douter que sa plaisanterie devait s'appliquer si juste. Celui qui est mort, répondit Jahoua assez tristement, pour nous convaincre qu'elle avait été veuve. « Et qu'as-tu fait ? » demandai-je de ton second mari. Elle hésita d'abord, devint pâle autant que peut pâlir un visage qui n'a jamais de l'ombre de couleur, et répondit en nous regardant fixement l'un après l'autre, « Je l'ai quitté. » « Après tout, dit Vandel en manière de conclusion, « tu as bien fait si t'ennuyais. » Ce soir-là même, Vandel allait au renseignement chez Hassan. Il apprenait qu'en effet, Aoua était veuve d'un premier mari et qu'elle avait divorcé 6 mois après ce second mariage. Mais Hassan n'en dit pas davantage. Et je ne sais pourquoi, parut tenir à ne nommer aucun des deux personnages qui ont fait l'un la fortune et l'autre le malheur d'Aoua. Aoua est arabe. Elle est née dans la plaine. Et si les informations sont exactes, son père appartenait aux Harib, une famille d'origine saharienne établie dans la Mitidja, qu'il habita sans existence légale, y vivant dispersé dans les tribus et maraudant sur toutes jusqu'en 1834, époque où l'administration la réunit pour en faire un auxiliaire et comme une sentinelle avancée de la France. Aoua conserve donc un peu de sang saharien dans les veines. Et son teint plus fauve, son œil plus sombre, sinon plus ardent, la juvénilité singulière de ses formes, que l'embonpoint commun chez les mauresques n'épaissira pas, concordent exactement avec ses origines. Par ses alliances, nous supposons qu'elle doit tenir soit au Beni Khilil, soit plus probablement aux Alchout. Au reste, ce sont des éclaircissements qui regarderait l'état civil s'il en existait un chez les Arabes, et non pas nous. Depuis lors, il n'a plus été question de ce que le hasard nous avait révélé
de la vie antérieure d'Aoua, et nous ne nous souvenons plus de son divorce, que pour en conclure qu'elle est libre et qu'ainsi les assiduités de ses deux nouveaux amis ne sauraient causer d'ombrage légitime à personne. La maison, très bruyante au rez-de-chaussée, et surtout si quelques différents de voisinage éclatent entre les juives, est on ne peut plus paisible à l'étage où la silencieuse Aoua habite seule et dont elle occupe la galerie avec Asra, la négresse, et le mari d'Asra qui vient y passer la nuit. À quelque moment que ce soit de la journée, excepté aux heures du bain, nous la trouvons là, dans un angle obscur de sa chambre, assise ou couchée sur son divan, se teignant les yeux, jouant avec un miroir, fumant le tombac, couverte de guirlandes fleuries comme une madone, les bras aussi froids que le marbre, l'œil admirable et vague, inerte et comme épuisé par l'oisiveté mortelle de sa vie. Personne autour d'elle, ni famille, ni enfant. Exemple singulier de beauté presque accomplie et stérile. Elle vit, si cela peut s'appeler vivre, pour je ne sais quelle destinée incompréhensible qui semble l'empêcher d'être épouse et la condamne à n'être point mère. Aussi, l'attrait qu'elle exerce est tout à fait étrange. Il est très vif et ne pénètre pas, j'imagine, au-delà de l'épiderme sensible du cœur. Elle a les séductions de la femme, mais sans le vouloir, et moins les intentions de séduire. On l'écoute, on la contemple, on l'admire, ravie par une chose charmante, sans être attirée. C'est une de ces créations bizarres qui seraient monstrueuses en Europe, où la femme est femme. Imagine quelque chose comme une fleur de luxe exquise et rare, née pour un gynécée d'Orient, qui doit l'embellir et le parfumer pendant le court épanouissement de sa jeunesse, et compare, si tu le veux, à la plus subtile des essences, le charme qui se dégage à l'insu de lui-même, de cet être inutile et délicieux. Vous parlez de fleurs, me disait mon ami Vandel un jour où je cherchais comme aujourd'hui des comparaisons pour la définir. Mais vous n'avez pas trouvé le mot qui convient. Tous les termes sont trop actifs pour donner l'idée de cette existence embryonnaire, sans initiative ni conscience. Il faut un verbe neutre, et le plus neutre sera le meilleur. Je vous en propose un latin, olet, elle exhale. Ajoutez un qualificatif pour exprimer l'attrait de ce fluide odorant, et dites qu'elle sent bon et rayonne comme une bonne odeur. Voilà, je crois, tout ce qui peut être raconté d'elle. Et quant à nous, nous sommes des sensuels, agréablement parfumés par le voisinage d'une plante exotique. Il n'y a là rien de bien dangereux, pourvu que de temps en temps nous changions d'air. Seulement, c'est à faire douter de l'âme humaine. La voix d'Aoua est une musique, je l'ai dit le jour où je l'entendis pour la première fois, plutôt une musique qu'un langage. Elle parle à peu près comme les oiseaux chantent. Aussi, pour se plaire aux entretiens d'Aoua, il faut avoir le goût des mélodies incertaines et l'écouter parler comme on écoute le bruit du vent. Quand on veut la rendre un peu plus tendre, il faut l'appeler « Aïli, mon œil ». Elle alors répond « Habibi, mon ami » ou bien « Rohadlel, mon âme ». Et rien n'est plus musical et moins passionné. Un rossignol dans sa cage en dirait autant. Il m'est impossible de t'expliquer ce que nous faisons d'elle et comment le temps y passe. Nous y entrons, nous y restons, nous la quittons, sans que les souvenirs d'aujourd'hui soient plus vifs ni plus mémorable que ceux de la veille. Le soleil, pendant ce temps-là, décline au-dessus de la cour. Il éclaire alors la chambre d'Aoua. Il y filtre en fine poussière d'or à travers le tissu léger du rideau tendu devant la porte. C'est une illumination qui dure un moment, et pendant laquelle tout ce petit intérieur, plein de soieries, de meubles à facettes, d'étagères enluminées de porcelaine peinte, est envahi par des reflets brûlants. Dès que le soleil est descendu derrière la terrasse, le crépuscule entre dans la chambre. Alors les couleurs s'effacent, les ors s'éteignent, le narguilé transpire des fumées plus bleues, et nous voyons apparaître le feu du fourneau. Le soir n'est pas loin, et nous atteignons ainsi la fin du jour. Il nous est arrivé de dîner chez Hawa. Ce jour-là, l'après-midi se passe en cuisine, à piler le poivre, la cannelle et le safran, à rouler le couscoussou dans des bassins de cuivre, à le faire mijoter sur un feu mesuré. Asra s'occupe des pâtisseries au miel. Vandel, qui se pique avec raison d'avoir été traité par les califats des trois provinces, introduit à la table d'Aoua des mets quasi fabuleux. Le fond de toute cette cuisine princière se compose invariablement de petits morceaux de viande et d'une grande quantité de fruits secs. Mais la nouveauté dépend du choix, de l'abondance et de la violence exagérée des épices. Lorsque, par hasard, la grande amie d'Aoua, la belle et blanche Aïchouna, arrive à l'heure du dîner, où ce qui est d'un meilleur monde se fait annoncer dès le matin par sa petite négresse Yasmina, la fête alors devient complète, car on peut être assuré qu'il y aura entre les deux amis émulation de toilette et de parure. Ce plaisir nous a été donné l'autre soir. Aïchouna arriva vers 6 heures, suivie de sa servante toute vêtue de rouge. En entrant dans la chambre, elle ôta son grand voile, laissa tomber au bord du tapis ses sandales de cuir noir et va se poser sur le divan, magnifiquement comme une idole. Elle était tout à fait splendide, les jambes entortillées dans un foutard noué très bas, avec un petit corset sans manches, émaillé de métal comme un fourreau de poignard, et une simple chemisette de gaze étoilée d'argent, qui, par une vanité fort excusable, ne servait qu'à moucheter de points brillants la nudité presque absolue de ses épaules et de sa large poitrine. Autant vaudrait ne pas avoir de linge, observa Vandel en la voyant entrer, car il y en a si peu épais qu'on dirait une buée. Mon cher ami, lui dis-je, ne savez-vous pas le mot les Indiens, ces pudiques amateurs de la transparence? Ils comparent ces gazes légères à des eaux courantes. La belle Aïchouna est de leur avis, elle s'habille avec une métaphore. Presque aussitôt, Hawa, qui nous avait quittés depuis 1 heure, souleva la portière de sa chambre de toilette et parut. Elle portait avec un grand air le costume impérial des femmes de Constantine, c'est-à-dire 3 longs cafetans l'un sur l'autre. 2 étaient de mousseline à fleurs, le 3e en drap d'or et l'habillant sans plis donnait une certaine roideur à sa taille si souple et l'enfermait dans une sorte d'armure éblouissante. Un fichu de drap d'or aussi, roulé d'une façon bizarre, cachait entièrement ses cheveux et s'appuyait comme une mitre asiatique sur l'arc relevé de ses sourcils peints. Elle avait d'ailleurs peu de bijoux et pas de bagues, modestie assez rare et qui me parut d'un goût parfait. Un simple trait d'antimoine allongeait ses yeux superbes et les bridait un peu, de manière à les faire involontairement sourire, et une toute petite étoile peinte en bleu la marquait au milieu du front d'un signe hiératique et mystérieux. Elle entra, traînant ses pieds nus sur la haute laine des tapis, et secouant, pour en répandre l'odeur autour d'elle, un mouchoir turc qu'elle venait d'imbiber d'essence. Elle s'approcha du divan, très bas, posa sa main brune et nerveuse sur l'épaule nue de son amie et se laissa glisser plutôt qu'elle ne s'assit par un mouvement de lassitude impossible à rendre. « Admirable !» dit Vandel, en lui faisant avec cérémonie le salut qu'on doit aux reines. Nous dînâmes sur le tapis, couchés de côté autour d'une petite table en marqueterie qui portait les bougies, et d'un haïg de négresse formant nappe, sur lequel on posait les plats. Le service était fait par les deux négresses, et c'était le mari d'Asra qui, pour la circonstance, nous présentait les guillères et la serviette brodée de soie de couleur. Après le dîner, qui fut long, les convives prirent le café, puis le thé, puis fumèrent sans interruption jusqu'à 10 heures. Aïchouna se leva la première. Elle s'enveloppa pour partir, mais plus négligemment qu'elle n'aurait fait le jour, du haïk épais qui est de mode à Melida. Elle en avait seulement un pan plié 2 fois sur la tête. Le reste la drapait comme un manteau. Avec sa taille élevée et son corset d'argent qui miroitait au-dessous de sa gorge nue et la tournure assez grandiose de cette draperie flottante, je la trouvais beaucoup plus imposante alors que sans voile et je la suivis des yeux jusqu'au bout de la galerie. Elle y passa sans bruit dans la lumière blanche de la lune. Yasmina la suivait, portant quelque chose de lourd, empaqueté dans un coin de son haïk couleur de sang. « Vous savez, me dit Vandel en riant, que ce ne sont que des pâtisseries. » Hier, un orage éclata dans la soirée pendant que nous prenions le café chez Aoua. Vers 10 heures, il pleuvait à torrents et l'obscurité devenait telle qu'il était impossible de se diriger pour sortir, à moins de suivre en tâtonnant le bruit du pied des murailles. Il ne fallait pas songer à porter une lanterne allumée par un temps pareil. Je demandai donc à Aoua qu'elle nous permît de passer la nuit chez elle. Et comme elle y consentit de bonne grâce, nous restâmes. « Oh, ne t'occupe pas de nous, lui dis-je. Si Boudjaba fera ses plans, moi j'écrirai ou je dormirai si l'envie m'en vient. Ainsi, bonne nuit, à demain. »« Bonne nuit à tous deux, dit-elle. » Elle alla s'étendre sur le divan qui lui sert de lit. C'est une sorte d'estrade en maçonnerie, d'aller lambrisser le faïence. La garniture se compose de 3 ou 4 épaisseurs de djerbi, d'un matelas de soie piquée, de coussinets pour appuyer les plis du corps et d'oreillers de satin pour soutenir la tête. Aoua s'y coucha tout habillée, suivant l'usage arabe, et ne tarda pas à s'endormir. Il n'y avait plus aucun mouvement, ni dans la rue, ni dans la maison. Les juifs du rez-de-chaussée s'étaient enfermés de bonne heure, n'ayant pas d'autre moyen d'empêcher l'eau de pénétrer dans leur logis que d'en barricader puis d'en calfater l'unique ouverture. Les enfants ne criaient plus. La nuit tout entière était remplie par le ruissellement continu de la pluie qui rejaillissait les terrasses et tombait dans la cour, inondée comme dans un étang. Je descendis afin de barrer la porte extérieure qui n'avait été que poussé, je mis l'arc-boutant. Quand je passais devant la chambre où la négresse était couchée près de son mari, j'entendis le nègre Saïd qui ronflait comme un lion qui dort, et la voix d'Asra qui fredonnait avec douceur un air africain pour encourager le sommeil de son enfant. Vandel avait renouvelé les bougies, déplié des cartes manuscrites dont il porte toujours, comme un encas, 2 ou 3 rouleaux dans ses poches, et s'était mis à déterminer l'itinéraire de ses prochains voyages. Il me prêta son livre de notes, livre un peu hiéroglyphique comme l'auteur lui-même, et je lus tant bien que mal sa récente excursion du sud dans l'est du Sahara algérien. Nous passâmes ainsi cette nuit pluvieuse, lui projetant de nouvelles aventures, moi réfléchissant au peu que j'ai vu et n'osant pas rêver à des expéditions qui me sont interdites. Je ne suis pas un voyageur, mon ami, je te l'ai déjà dit, et plus d'une fois. Tout au plus, suis-je un homme errant. Mes voyages, si j'en faisais, ne serviraient pas même à donner à d'autres la curiosité de les refaire après moi. Je battrais vainement les chemins du monde. La géographie, l'histoire et la science n'en obtiendraient pas un renseignement qui fût nouveau. Souvent, le souvenir que je garde des choses est inénarrable, car quoique très fidèle, il n'a jamais la certitude admissible pour tous d'un document. Plus il s'affaiblit d'ailleurs, plus il se transforme en devenant la propriété de ma mémoire. Et mieux il vaut pour l'emploi qu'à tort ou à raison je lui destine. À mesure que la forme exacte s'altère, il en vient une autre, moitié réelle et moitié imaginaire, et que je crois préférable. Tout cela ne fait pas un voyageur, et cette manière de procéder prouve au contraire que je ne suis pas né pour aller loin. « Vous avez vu Sidi Kogba ?» me dit Vandel, en suivant sur sa carte la ligne ponctuée qui de Biskara conduit à Loued-Kir. « Oui, lui dis-je, à mon second voyage. » Vous souvenez-vous de la mosquée de la sépulture du Saint ? Le vicaire est l'un des premiers lieutenants du prophète. Avez-vous remarqué la forme toute particulière du monument ? Oh, l'un des plus curieux des Ibans ! Et vous a-t-on raconté la légende extrêmement célèbre qui s'y rattache ? Et comme il vit embarrassé de lui répondre, « Mais qu'avez-vous donc fait à Sidi Ogba, si vous ne connaissez même pas la seule chose qui eût à connaître ?» Mon cher ami, lui dis-je, il faisait très chaud, très beau le jour où j'y passais. Le ciel, chauffé à blanc, s'étendait comme un miroir d'étain au-dessus du village, à demi consumé déjà par une demi-journée de soleil sans nuages. On me mena voir la mosquée, je la vis. On me raconta son histoire et je l'écoutais, mais ce dont je me souviens nettement, c'est surtout ce qui suivit. Il y avait une collation préparée pour nous dans un jardin, des nattes par terre au pied d'un figuier, sur nos têtes une étoffe de tente attachée par des cordes à trois palmiers faisant triangle. Le caïd que je pouvais vous peindre, nous servait. Nos chevaux étaient entravés dans le même enclos, couvert d'écume et les naseaux enflammés par la marche du matin. Il était midi, et c'était, je vous dirai la date exacte, le 15 mars 1848. Nous quittions la Smala d'un neveu du Cheikh El Harab, un bel Ghana, riche et beau comme tous les membres de cette famille, magnifique. Comme nous étions en route et à mi-chemin à peu près du Douar au village, un courrier arabe qui nous cherchait depuis le matin était accouru vers nous au grand galop. Il avait à nous remettre un billet et le premier feuillet d'un journal de la part du commandant, nous dit-il. Ce billet et ce journal, qui portait en tête République française, nous apprenaient une nouvelle inattendue et fort grave, comme vous voyez. Je relus l'un et l'autre, et attentivement, après le repas, dans le jardin même, au milieu d'un cercle de gens dont pas un ne parlait ma langue, mais très soupçonneux comme des Arabes. Vous savez comment les nouvelles s'ébruitent dans ce pays, c'est le vent qui les porte. Les palmiers faisaient en froissant leurs feuilles un certain bruit qui ressemblait à des inquiétudes. Je cueillis des palmes mouchetées en raison de la circonstance, et puis du lieu. Je songeais à mes amis de France. Un coup de fusil parti par hasard fit envoler des centaines de moineaux et de tourterelles qui dormaient à l'ombre dans le creux des arbres. Et je me souviens qu'en voyant s'enfuir à tire-d'aile tous ces oiseaux brusquement réveillés, je pensais que toute ma tranquillité d'esprit s'en allait aussi. Et voilà ce qui me reste de ma visite à Sidi Ogba. La date d'une émotion politique mêlée subitement à une pastorale africaine et un faisceau de palmes qui fixa tout jamais mes souvenirs. « C'est une jolie promenade, » me dit Vandel, qui n'avait pas écouté les 10 premiers mots de mon récit. Pour la 100e fois depuis que je le connais, le voyageur né pour les voyages avait jugé l'artiste. En 4 et 5 heures, la pluie cessa. On entendit la voix des coqs qui n'avaient pas chanté depuis minuit. Des animaux logés dans un fondouk voisin commencèrent à s'agiter sur leur litière et à faire un bruit matinal dans leur mangeoire vide. La lune se leva, elle était à son dernier quartier. Son disque tout à fait renversé, ce qui est dit-on un indice d'orage, parut au-dessus des terrasses, mais trop diminué pour éclairer la nuit et pareil à un anneau brisé. Aoua ne s'était pas éveillé une seule minute. Rien absolument n'était dérangé dans sa toilette. La chaleur du sommeil avait seulement fané les colliers d'oranger dont elle aima rester parée pendant la nuit et pendant le jour. L'odeur même en était devenue si faible qu'on ne la sentait presque plus. Alors, en la voyant couverte encore de ses fleurs préférées, mais de fleurs mourantes dormant d'un sommeil sans rêve et dans un repos aussi profond que l'oubli, il me vint, je ne sais pourquoi, une pensée amère et je dis à Vandel, « N'est-ce pas mauvais signe quand les fleurs se fanent vite au corsage des femmes ?» Mais Vandel, pour toute réponse, me montra le ciel du levant où l'aube allait poindre. « Mais vous avez raison, lui dis-je, il ne faut pas que le jour nous surprenne en bonne fortune. Allons-nous-en. » Et nous sortîmes avec précaution, comme si nous avions craint de déplaire aux yeux chastes du jour naissant.